Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. En cette journée mondiale de l'environnement, nous parlons aujourd'hui des maladies de l'eau. Une question de santé publique sur une planète où l'accès à cette ressource vitale est sans doute la première des inégalités. 30% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et 60% de la population ne dispose pas d'un assainissement digne de ce nom. Microbes, bactéries, parasites, mais aussi métaux lourds ou produits chimiques, cette contamination est à l'origine d'une véritable hécatombe. Maladies diarrhéiques, gastro-entérites qui tuent 1000 enfants de moins de 5 ans chaque jour, choléra, parasitose, paludisme, bilharziose. Ces maladies hydriques affectent en premier lieu les populations les plus défavorisées, en milieu rural et dans ces villes qui ont grandi trop vite, puits souillés, rivières contaminées, absence d'égouts, marcher plus d'une demi-heure pour accéder à un point d'eau, c'est encore une réalité pour 263 millions de personnes dans le monde. Et cette privation d'une ressource essentielle, c'est une calamité de plus qui s'abat sur les populations victimes de la guerre ou des catastrophes naturelles. Et pourtant, l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030, c'est le sixième des objectifs du développement durable. Objectif qui, à ce jour, est loin, très loin d'être acquis. Professeur Renaud Piarou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialisé dans les maladies parasitaires et tropicales, professeur à la Sorbonne Université. Avec nous en studio également, Alain Boinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Solidarité Internationale, ONG spécialiste de l'accès à l'eau et à son assainissement. Solidarité Internationale qui organise des missions humanitaires de l'Afghanistan au Darfour, en passant par Haïti ou encore la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, nous allons retrouver en ligne du Burkina Faso le professeur Nicolas Barrault, professeur titulaire de microbiologie, responsable du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par l'eau et les aliments à l'université de Ouagadougou. Et en fin d'émission, on va faire le point sur la deuxième marche contre les OGM qui a été organisée ce samedi à Ouagadougou, au Burkina. Plus d'un millier de personnes se sont mobilisées et nous serons en ligne avec Blandine Sankara, coordinatrice du collectif citoyen pour l'agroécologie. Vos questions, on les attend. Bien sûr, le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Première question, Alain Boinet, pour fixer les choses, bien prendre conscience de l'ampleur de ce problème de l'accès à l'eau et son retentissement en termes de santé publique. On fait face en fait à plusieurs cas de figure. Il y a les situations d'urgence, il y a des installations défectueuses qui fait que les gens peuvent tomber malades, mais il y a aussi des insuffisances chroniques. Et là, en fait, c'est un problème qui, selon votre ONG, votre organisation, n'est pas pris à sa juste valeur.
Alors effectivement, l'eau, l'accès à l'eau potable a été longuement et longtemps sous-estimé comme besoin des populations dans les pays les moins avancés et en particulier dans ces pays confrontés à des crises ou à des catastrophes naturelles où on a une amplification des besoins du fait notamment du déplacement des populations qui déstabilise complètement leur mode de vie. Et on l'a longtemps sous-estimé. Et pour nous, si l'accès à l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement dans les situations de crise humanitaire est une priorité, c'est parce qu'en fait nous avons découvert il y a une quinzaine d'années que l'eau insalubre, l'eau impotable était un facteur majeur de mortalité, notamment chez les enfants, du fait des fameuses maladies hydriques dont on parle. Et donc on a besoin d'eau pour vivre chaque jour, et les gens ont le choix dans ces pays entre l'eau insalubre et l'eau potable, et le plus souvent c'est l'eau insalubre. Et donc ça augmente la mortalité de populations de pays moins les moins avancés, mais aussi de populations déplacées, fragilisées de ce fait.
Ce qui explique, par exemple, que quand on a des grands mouvements de population dans certains camps de déplacés, les humanitaires soient confrontés à des épidémies.
Alors, Bah, les regroupements de population, là où il n'y a pas d'eau potable, par définition, très vite, ça va provoquer des diarrhées, par exemple, tout simplement, chez les enfants, et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dès lors qu'il n'y a pas de centre de santé, qu'il n'y a pas, ou que les familles n'ont pas les moyens d'accéder, je veux dire, à un traitement, et on en meurt. Hein, les diarrhées sont une cause majeure de mortalité parmi les maladies hydriques. Et donc, c'est vrai, quand il y a des déplacements de milliers ou de dizaines de milliers de personnes qui se produisent parce qu'il y a un conflit, une guerre ou une catastrophe. Les gens arrivent dans des endroits où, alors, ou bien ils arrivent dans des villages, dans des villes, et donc la pression démographique en quelque sorte, les installations ne suffisent pas pour les ravitailler en eau potable, ou bien il y a rien, comme on l'a vécu par exemple au Darfour, et à ce moment-là il faut aller faire des puits, enfin il faut faire des forages, mais parfois à 50 ou 100 mètres, et tout ça, ça s'improvise pas du jour au lendemain, quoi. Donc en fait c'est toujours une lutte de vitesse, c'est vraiment une lutte de vitesse pour répondre aux besoins d'eau potable, mais aussi manger tous les jours, être abrité, être soigné.
Les besoins fondamentaux, professeur Renaud Piarou. Justement, on va s'arrêter sur ces pathologies liées à l'eau, à sa mauvaise qualité, des maladies nombreuses, hein, on va le voir. On peut déjà s'arrêter sur le mode de transmission. Il y a à la fois des causes qui sont liées à l'environnement, mais aussi, ensuite, il peut y avoir des transmissions interhumaines. On pense pour cela, bien sûr, à toutes les maladies diarrhéiques. Elles sont nombreuses.
Oui, ces maladies sont nombreuses et probablement en termes de poids, de
morbidité.
De morbidité, donc de nombre de personnes malades, c'est certainement la première des priorités parmi les maladies liées à l'eau.
Alors justement, dans ces maladies, il y a celles, on peut dire, qui sont quasiment communes. On pense à la gastro-entérite, avec une vulnérabilité particulière, professeur Piarou, pour les plus jeunes, pour les enfants et encore plus pour les bébés.
Alors la gastro-entérite existe dans les pays en développement, elle existe aussi en France. Et on a chaque année des épidémies de gastro-entérite, ce qui veut dire que l'eau joue un rôle, mais la transmission interhumaine aussi, puisqu'en France, la gastro-entérite, généralement virale, c'est par exemple un virus qu'on appelle le rotavirus, qui sévit au début de l'hiver chaque année, n'est pas transmis par l'eau. En France, il est transmis essentiellement par les surfaces, les mains sales, le contact direct. Dans les pays en développement, s'ajoutera la transmission par l'eau. Et cette gastro-entérite ne tue pratiquement pas en France, quoique j'ai des souvenirs douloureux d'enfants morts à l'hôpital parce qu'arrivés trop tard avec une déshydratation extrêmement sévère. Ça arrive encore dans nos pays, mais c'est rare. Par contre, ça tue énormément dans les pays en développement parce que il n'y a pas d'accès aux soins et le soin le plus basique qui est la réhydratation, donner ce qu'il faut pour que l'enfant compense ses pertes liées à la diarrhée et au vomissement, ces soins basiques ne sont pas assurés pour une frange de la population qui peut être très importante dans certains pays en développement.
Alors, autre maladie diarrhéique, on pense bien sûr au choléra, là, ce n'est pas la même chose. Déjà, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'épidémie dans les pays développés, on va dire. Pour le choléra, on parle de flambée. Comment se fait-il qu'il y ait des flambées de choléra et comment se fait-il que la maladie soit si longue à éradiquer une fois qu'elle est là?
Alors, pour les flambées, puisqu'on parlait tout à l'heure des camps de réfugiés, un exemple le plus simple, je peux parler par exemple de l'exemple de Goma en 1994.
On est en République démocratique du Congo.
Voilà, juste après le génocide rwandais, une population d'environ 1 million de personnes traverse la frontière et va dans ce qui s'appelait à l'époque le Zaïre, qui s'appelle maintenant la République démocratique du Congo. Et effectivement, ils arrivent tellement vite que les humanitaires sont débordés, ils ne peuvent pas apporter suffisamment d'eau. Pendant les toutes premières semaines, ils apportent l'équivalent d'un verre d'eau par jour et par personne.
Et simultanément, le problème des évacuations, des latrines, pas suffisamment de latrines, il n'y a pas d'évacuation, donc c'est en plein air.
Les gens sont en plein air.
Donc il y a une contamination directe.
Le lac Kivu qui est à cet endroit-là est contaminé, les plans d'eau sont contaminés, et c'est là où les personnes viennent prendre leur eau. Et là, on a des épidémies extrêmement sévères. Moi, j'ai travaillé là-bas à ce moment-là. Tous les matins, des cadavres sur les bords des chemins pour que les militaires de la Légion étrangère, qui étaient à ce moment-là sur zone, viennent les ramasser et les enterrer. Donc, Là, on a un contexte typique des personnes déjà affaiblies par un conflit qui ensuite vont se retrouver avec une énorme flambée de choléra. On a aussi un exemple un peu similaire aussi au Yémen, simplement par la destruction des infrastructures liées à l'eau.
Là, c'est aujourd'hui, en ce moment.
Une situation de guerre, c'était l'année dernière, maintenant ça s'est un peu passé, mais une épidémie de choléra très très importante. Donc ces flambées sont souvent liées à l'arrivée du germe ou l'arrivée d'une population, et surtout, en arrivant, se retrouver dans des conditions de vie qui sont catastrophiques. Peut-être le dernier exemple, c'est Haïti. Haïti, une très très grosse flambée. Là, la population vivait déjà dans de très mauvaises conditions d'accès à l'eau et d'accès à un assainissement décent. Mais c'est l'arrivée du germe, malheureusement, en accompagnant des troupes de l'ONU, qui a déclenché la catastrophe et fait que du jour au lendemain, il s'est mis à avoir une épidémie extrêmement sévère avec des milliers de cas tous les jours, des centaines de décès par jour au pic. Et maintenant, 8 ans après, on est toujours en grande difficulté pour éteindre les derniers foyers parce que on se trouve dans des zones rurales où il n'y a strictement aucun accès à l'eau. Et dès qu'il pleut, les matières fécales vont dans l'eau et les gens boivent
et se
recontamine. Cette eau contaminée.
Alain Boinet, justement pour regarder la situation aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est pas débarrassée du choléra, hein, loin de là. C'est une des cibles de votre organisation. Comment ça s'organise la riposte face au choléra, par exemple, dans la région du Kassai?
Alors, d'abord, ce qu'il faut peut-être dire pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, l'eau est inégalement répartie dans le monde. Donc il y a des pays où il y a beaucoup d'eau, des pays où il n'y en a pas, ou pas beaucoup. On peut penser au Darfour, c'est un désert semi-aride, et en RDC, vous en parlez, c'est un pays où il y a énormément d'eau, c'est l'Afrique verte. Le problème, c'est que l'essentiel de l'eau disponible, en tout cas en zone rurale, n'est pas consommable parce qu'elle est insalubre. Et ce que je voudrais signaler, c'est que dans l'aide humanitaire d'urgence menée par Solidarité Internationale, il y a toujours un lien extrêmement étroit entre l'accès à l'eau potable, l'assainissement, donc les latrines, et puis des campagnes de sensibilisation à l'hygiène. Et en fait, c'est la coordination de ces trois actions qui peut faire l'efficacité. Parce qu'en fait, l'eau est rendue insalubre essentiellement par les animaux et par l'activité humaine, c'est-à-dire les défécations. Et au fond, la plupart des gens dans ces pays peu avancés ne le savent pas, vivent de manière habituelle, ils ont toujours bu l'eau à la source, et quand cette source est souillée parce que les animaux sont venus faire leur besoin, à ce moment-là, ils sont dans un cycle dont on ne sort pas. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un lien vraiment entre l'assainissement, notamment quand il y a des grands regroupements de population. Il faut vraiment mettre en place des latrines très vite, éviter qu'elles n'affectent les nappes phréatiques dans lesquelles on va aller chercher l'eau, par exemple, ou les cours d'eau, ou les sources environnantes, l'accès à l'eau potable, et puis aussi des campagnes de promotion à l'hygiène dans la vie quotidienne de ces familles. Alors, vous savez, comme le disait Renaud Pierrot tout à l'heure, nous, on n'est pas une ONG médicale, on est une ONG humanitaire d'urgence, et pour nous, la meilleure réponse à toute crise de choléra comme à toute maladie hydrique, vous parlez du Kassai, on pourrait parler de Kalemi, où on a beaucoup travaillé ensemble, ou de Beni, au Kivu, ou de Kalemi
au Katanga,
eh bien, c'est l'accès à l'eau potable. C'est la meilleure réponse qu'on puisse apporter.
Donc votre organisation mène des campagnes de chloration des réseaux. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors si je prends l'exemple de Kalemi. À Kalemi, sans aller dans le détail, il y a une station qui a été construite il y a très longtemps, dans les années 50, qui était plus suffisamment dimensionnée, la population augmentée. La démographie est d'ailleurs une des dimensions, de la question de l'accès à l'eau potable et des dérèglements climatiques évidemment également. Donc démographie plus dérèglement climatique, ça crée une pression sur la ressource en eau qui est absolument considérable et qui va en diminuant et en étant plus polluée du fait des activités humaines. Donc là on est confronté à un grand défi. À Kalemi, donc on a une station qu'on a cherché à développer en termes de réseau, de rénover parce que c'était très ancien, mais elle est ravitaillée par de manière électrique. Et quand on manque d'essence, parce que les groupes électrogènes n'ont plus assez de carburant, et il n'y a plus assez de carburant parce que les gens, la localité n'a pas les moyens toujours de payer le carburant, à ce moment-là, l'eau n'arrive plus. Et les gens vont à nouveau au lac Tanganyika pour prendre de l'eau. Sauf que l'eau, elle est contaminée. Et donc ce qu'on fait dans ces situations-là, Bien sûr, on a rétabli tout ça, mais à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on poste des gens avec des seringues et du chlore, de façon à pouvoir mettre une dose de chlore dans les bidons, dans les seaux que les gens ramènent du Tanganyika. Mais ça, c'est pas la solution durable.
C'est une solution ponctuelle.
C'est ponctuel. Très ponctuel. Ce qui compte après, c'est les réseaux d'adduction d'eau pour que ça fonctionne quotidiennement.
Bien sûr, professeur Pierrot.
En reprenant cet exemple de Kalemie, qui est une petite ville de République démocratique du Congo sur le bord du lac Tanganyika, c'est intéressant de voir comment la médecine et l'accès à l'eau sont liés, puisque on a repéré ce problème de kalémie par des travaux d'épidémiologie qui montraient que les épidémies de choléra qui frappent l'est de la République démocratique du Congo démarraient d'un certain nombre de points, dont Kalemie, une sorte de point de départ, de sanctuaire du choléra, et qui était lié à une situation tout à fait particulière d'une ville au bord d'un lac, un lac assez permissif au choléra, et le fait qu'une grande partie de la population, en fait, s'approvisionnait dans le lac. Et c'est là que on a commencé à établir des collaborations et des programmes où la lutte contre les épidémies de maladies diarrhéiques et en particulier de choléra passe par de l'aménagement urbain. Il faut parler de choses très claires. Faire, effectivement, assurer l'apport en électricité. Il y avait un barrage avec des turbines qui tombaient en panne, effectivement, qui posaient des problèmes. Avoir cette station de pompage et d'épuration d'eau et avoir un réseau de distribution. Des choses qu'on a en France depuis la fin du 19e siècle.
Élémentaire.
Et ça n'est pas encore en place, et c'est pour ça qu'on est face à ces maladies.
On a parlé de ces infections intestinales. Avant de prendre un premier auditeur en ligne, je voudrais qu'on parle des parasitoses. On va dire que c'est un petit peu l'autre grande famille, au-delà des contaminations et des empoisonnements de l'eau. Ces parasitoses, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, vous pouvez nous en citer quelques-unes de ces grandes maladies qui sont véhiculées par ce qui amène un parasite, mais qui sont certainement, dans certains cas, véhiculées par d'autres, on va dire quoi, intermédiaires, transmetteurs, c'est ça ?
On parle d'hôtes intermédiaires. Alors déjà, pourquoi on parle de parasitose et d'infection bactérienne ? Parce que, en fait, les parasites sont plus gros que les bactéries. Les bactéries sont vraiment toutes petites. Les parasites sont déjà des êtres plus évolués qui ont des cellules comme les nôtres. Certains sont encore minuscules, comme le parasite qui donne le paludisme, qui est un être unicellulaire. Et puis d'autres sont quand même de taille respectable. Une maladie liée à l'eau, par exemple, peut nous donner par un circuit qui passe dans l'eau et la consommation de poissons dans les lacs plutôt froids, peut nous donner un ver qui fait jusqu'à 15 mètres de long. Donc, c'est un ver digestif.
C'est pour
donner un exemple. Mais donc, il y a une très très grande diversité de parasites. Certains sont intestinaux. Ils sont souvent transmis par l'alimentation et parfois par l'eau. D'autres passent à travers la peau, comme la bilharziose. Le ver est sous la forme de petites fléchettes à un moment de son cycle et traverse la peau pour ensuite se développer dans nos vaisseaux sanguins.
Qui concerne plus de 200 millions de personnes sur la planète. C'est quoi les symptômes de la bilharziose ?
Ben, ça va dépendre où sont... La bilharziose, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour entre des vers mâles et femelles qui vont vivre une vie de plusieurs années ensemble dans nos vaisseaux sanguins, rester accouplés pratiquement en permanence et pondre des œufs en permanence. Et ces œufs vont essayer de trouver un chemin de sortie du corps puisqu'ils sont à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et pour sortir du corps, ils vont passer soit par les voies urinaires, soit par les voies digestives. Et ensuite, ça va retourner dans l'eau. On va retrouver effectivement un hôte intermédiaire, une sorte de petit escargot qu'on a dans l'eau. Et de cet escargot sortiront ces fléchettes qui vont recontaminer les personnes. Et donc, avec un cycle aussi complexe que ça marche très très bien parce que l'homme va très souvent dans l'eau. Il y va pour faire ses besoins et il y va aussi pour nettoyer, etc. Et là, on n'a plus besoin de boire, simplement de tremper les pieds. Et c'est quelque chose qui marche très très bien et on a des formes urinaires. C'est des personnes qui vont avoir du sang dans les urines au départ et puis ensuite peuvent avoir des complications d'infections urinaires, de cancer des voies urinaires. Et on a des formes digestives qui vont plutôt être nocives pour le foie et entraîner des pathologies, y compris des cancers hépatiques aussi.
Dans certains cas, professeur Pierrot, on filtre l'eau. En quoi consiste exactement cette procédure et ça évite quoi ?
Alors ça, c'est encore une autre maladie qui s'appelle la dracunculose. qu'on attrape en ingérant des tout petits crustacés qui sont dans l'eau et qui eux-mêmes sont parasités par le parasite. Quand on ingère ces petits crustacés qu'on peut tout à fait filtrer, on commence à héberger un ver qui va grandir et qui va pousser dans notre corps jusqu'à descendre jusqu'au niveau des chevilles. Et là, ça fait comme un bouton qui, en fait...
C'est le ver de Guinée.
C'est le ver de Guinée et c'est l'utérus d'un ver de Guinée femelle. Et ensuite, quand on va dans un plan d'eau, le contact avec l'eau va permettre au ver de pondre.
Et cette maladie, elle est en voie d'éradication, c'est ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé, mais on va dire, la lutte continue.
La lutte doit continuer impérativement. On voit très bien que là, on a quand même beaucoup de moyens pour casser ce cycle, puisque on peut essayer d'éviter que les personnes mettent parce que ce sont des points d'eau où il n'y a pas trop de courant, donc s'il y a des puits avec des margelles, etc., ça évite le contact. On peut effectivement filtrer l'eau, on peut traiter les personnes. Tout ça fait que on arrive à effectivement se débarrasser de cette maladie dans des zones de plus en plus nombreuses, mais il reste quelques points à surveiller. Mais c'est probablement une maladie qui est accessible à l'éradication.
Professeur Pierre Roux, Alain Boinet, on va tout de suite prendre en ligne des auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est d'abord une auditrice qui est avec nous de République démocratique du Congo, de Kinshasa. C'est Vanessa. Bonjour Vanessa.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
On vous écoute, bonjour. Vanessa.
Bonjour à toute l'équipe de la RFI. Oui, en fait, avant de poser ma question, je voudrais épingler deux points qui font vraiment défaut dans mon pays, dans ma ville où je me retrouve maintenant.
Mm-hmm.
En fait, voilà. Les nourritures sont vraiment exposées à l'extérieur, ouvertes, et donc à la merci des mouches et des poussières. Alors, la population préfère donc acheter ces genres d'aliments-là par rapport au prix et tout. Et donc, nous avons une facilité d'attraper des maladies telles que la typhoïde je sais pas, etc., tout ce qui se passe là-bas. Et voilà. Donc, j'aimerais aussi ajouter une autre chose concernant l'affaire des typhoïdes du jour. Donc, il y a parfois les aliments qui tombent par terre et on est obligé de ramasser parfois. On essuie tout simplement et hop, dans la bouche, on se dit que voilà, les microbes sont distraits. Donc, ce concept-là a vraiment un impact ici. Et on ne sait pas si... Ma question par rapport maintenant au professeur est de savoir quelles sont les mesures, outre que la prophylaxie, qu'on nous dit souvent, voilà, il faut se laver les mains, il faut faire ceci, cela pour éviter la maladie. Mais cette prophylaxie-là n'existe plus chez nous. Alors, quelle est la mesure qu'on peut utiliser pour éviter de tomber malade par la typhoïde ou la gastro-entérite et tout?
Voilà. Question de Vanessa, des mesures simples à la portée de tous pour éviter justement ces infections gastro-intestinales. La typhoïde, c'est quand même un petit peu plus sérieux qu'une gastro-entérite. Dans ces deux cas, l'eau peut être en cause.
Oui, l'eau et les aliments, c'est effectivement ce que Vanessa décrit est tout à fait propice à la transmission de la typhoïde. Les aliments qui sont comme ça vendus sur un marché, déposés par terre juste sur une petite natte, facilement contaminés par les mouches, par la poussière, mais aussi par les mains des personnes qui manipulent. Il suffit qu'une personne soit malade ou porteuse du germe pour contaminer. Donc on a vraiment une transmission qui est une transmission qui peut être une transmission liée à l'eau souillée, mais qui est aussi une transmission liée aux mains souillées. Quelque chose tombe par terre dans un endroit où on ne sait pas ce qui s'est passé quelque temps auparavant. Il peut tout à fait y avoir des microbes et le fait d'essuyer comme ça est un petit peu... Bref, et c'est peut-être pas le microbe qui est distrait, c'est peut-être quand même un peu le patient. Malheureusement, je ne peux pas proposer des mesures.
On ne peut pas javeliser la nourriture,
qui,
ça ne marche pas.
On pourrait le faire.
Après rincer avec de l'eau propre, je ne sais
voilà,
pas.
On peut le faire
mais
comme ça.
Mais systématiser, ça paraît compliqué.
Ce qui reste le mot d'ordre dans ce contexte-là, c'est d'abord d'éviter au maximum de consommer ces produits qui ont été exposés au risque de contamination. Alors si c'est une petite brochette bien chaude, etc., il n'y a pas trop de risques.
La cuisson, c'est quand même une méthode pour éviter la contamination.
La cuisson est une méthode de protection. Et effectivement, un aliment chaud, cuit, une soupe ou les petites brochettes qu'on peut trouver à Kinshasa présente moins de danger que quelque chose qui serait consommé froid, un jus de fruits par exemple. Et puis il y a des personnes qui n'hésitent pas pour rafraîchir leurs légumes, à les tremper un peu dans l'eau, mais c'est l'eau du fossé à côté, ça leur donne un aspect plus frais, etc. C'est évidemment extrêmement dangereux, donc c'est un mode de contamination. De fait, chaque fois qu'on peut l'éviter, il faut éviter de manger des légumes dans ces conditions, des fruits et légumes dans ces conditions. Il faut les laver, il faut les cuire, il faut se laver les mains, et sinon, on est exposé au risque.
Voilà, Vanessa, la cuisson et l'hygiène des mains, c'est les deux conseils que vous donne le professeur Pierre Roux. Excellente journée à vous à Kinshasa. On va prendre un autre auditeur en ligne, c'est Théadoum qui est en ligne du Tchad, de la ville de Boussou. Bonjour Théadoum.
Bonjour Caroline et bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Alors vraiment, la question de l'eau est problématique ici en Afrique. Alors, chez moi, au Tchad, par exemple, on utilise parfois de l'eau sale, l'eau des carnivores pour arroser les salades, les concombres et certains légumes. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que quand on consomme ces produits arrosés par l'eau sale, cela peut causer le typhoïde? Et j'aimerais aussi savoir, parfois, dans certains coins de mon pays, là où je vis, les habitants sont obligés de boire l'eau de rivière. Et puis, bon, ils utilisent une méthode, ils mettent de l'eau là au feu avant de le boire. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le fait de mettre l'eau là au feu avant de boire, cela peut réduire, peut tuer les microbes ou cela peut éviter de contracter vraiment un certain nombre de maladies, quoi?
Deux questions de Théadoum. On va commencer par l'ébullition, faire bouillir, chauffer l'eau avant de la consommer quand on n'a pas trop le choix, hein, on est obligé de puiser l'eau à la rivière. Est-ce que c'est une bonne solution, professeur Pierre Roux?
Oui, c'est une. Si on peut l'appliquer, si on a ce qu'il faut pour le faire. J'ai vu aussi, on parlait de la République démocratique du Congo, des panneaux indiquant il faut faire bouillir l'eau, etc. À l'adresse de pêcheurs qui travaillaient dans les lacs et qui n'ont pas de charbon, qui n'ont pas de possibilité de faire du feu facilement.
Il faut que ces mesures soient à la portée du public.
Quantité, il faut que ce soit évidemment à la portée. C'est comme se laver les mains, c'est un problème. Globalement, le problème. Le problème n'est pas tellement d'informer, bien sûr, on informe, on sensibilise, mais si les moyens ne sont pas donnés en même temps, c'est extrêmement frustrant. Et je comprends par exemple l'auditrice précédente qui dit on est un peu obligé pour des questions de prix de manger des aliments qui sont à risque. Et là, on retrouve le même risque, la même question sur la fièvre typhoïde qui peut être transmise de cette manière-là. Le choléra est moins un problème au Tchad qu'en République démocratique du Congo, mais en période d'épidémie de choléra, évidemment, c'est un moyen de transmission aussi. Donc, les protections, c'est effectivement de faire bouillir l'eau, c'est de nettoyer les aliments avec une eau propre, donc c'est éventuellement d'utiliser des petits comprimés de chlore pour chlorer l'eau à domicile. Il y a des programmes comme ça, beaucoup avec Solidarité d'ailleurs, on agit comme ça pour lutter contre la propagation du choléra en pleine épidémie. Il y a différents moyens possibles. On peut filtrer aussi l'eau, ça diminue le risque, mais après, il faut laver le linge qui a servi à filtrer, et finalement, c'est pas si simple que ça. Tout ça est simplement un moyen de voir que, à la fois, d'un point de vue infrastructure dans les villes, on n'est pas à la hauteur, et d'un point de vue moyen donné aux gens pour vivre décemment, on n'est pas à la hauteur non plus. Et c'est les raisons pour lesquelles on a ces maladies avec un impact si fort au Tchad ou en République démocratique du Congo, par exemple.
Voilà, Théa Doum, très bonne journée à vous au Tchad. Journée mondiale de l'environnement, on continue de parler des maladies liées à l'eau. Toujours avec vous, Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale, et professeur Renaud Piarou, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce que l'on peut évaluer l'impact du réchauffement climatique sur les maladies liées à l'eau, professeur Piarou?
Non.
C'est difficile, hein?
Non, c'est extrêmement compliqué.
Mais en tout cas, on sait que ça a un impact?
Ça, évidemment, dans certains cas, ça aura un impact positif, enfin, je veux dire, en termes d'accroissement de certaines maladies. Dans d'autres cas, ça va les réduire. Bien fort est celui qui sera capable de voir si les maladies liées à l'eau augmentent ou diminuent globalement en fonction des changements climatiques. Je vais prendre les exemples des maladies vectorielles, puisque c'est celles qui sont très certainement les plus impactées par les changements climatiques. Maladies à transmission vectorielle, premier exemple, le paludisme. Il est évident que le réchauffement climatique est un facteur favorisant du paludisme dans les zones un peu en altitude en Afrique. Dans l'Est africain, il y a des zones à 1500, 1800 mètres d'altitude. Le paludisme peut s'installer parce que la température de l'eau, où se fait le cycle du moustique, augmente et permet la transmission de, à la fois la prolifération des moustiques et la transmission du parasite. Mais dans d'autres cas, les modifications, par exemple, une zone un peu plus sèche va diminuer la transmission du paludisme. Et finalement, le bilan est difficile à faire entre l'augmentation et la diminution. Et quand même, à côté de la pression démographique et du problème des moyens donnés aux populations pour se protéger, le réchauffement climatique agit quand même beaucoup à la marge pour ces maladies.
On va partir dans un instant pour le Burkina. Juste Alain Boinet, je voulais vous dire, au sujet de cet investissement, hein, on voit que finalement, par rapport à la nécessité, aux besoins, il manque énormément de moyens sur cette politique d'assainissement. Est-ce que les gouvernements n'ont pas compris que investir dans l'eau, c'était aussi un investissement très rentable?
Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler, effectivement, c'est que lors de la signature des objectifs du développement durable, en juillet 2015, les 195 États présents aux Nations Unies ce jour-là se sont engagés dans ce qu'on appelle les objectifs du développement durable, 17 objectifs, dont un objectif 8 qui est celui de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et l'objectif à l'horizon 2030, c'est de faire en sorte que l'ensemble de l'humanité ait accès, un accès universel à cette eau potable. Donc on est... Et sachant que dans le même temps, on a une démographie galopante, hein, et en particulier en Afrique, on a un phénomène d'urbanisation où l'on voit dans les bidonvilles, autour de ces grandes villes qui se développent à très grande vitesse, un recul de l'accès à l'eau potable parce que les États n'ont pas la capacité de mettre en place des services essentiels, des services publics au rythme d'augmentation de la population. Donc on est vraiment dans un combat. Mais il est vrai que l'accès à l'eau potable, y compris d'ailleurs en zone rurale, voyez, auprès de villageois, mais bien sûr globalement au niveau d'un pays, a des effets extrêmement positifs, d'abord sur l'éducation, parce que à partir du moment où il y a un accès à l'eau potable, la durée moyenne pour aller chercher de l'eau, c'est de l'ordre de 5-6 heures, voyez, c'est souvent les femmes, les enfants qui le font, donc ça veut dire qu'ils vont pas à l'école, donc pas d'éducation. Les femmes, si elles avaient l'eau à proximité, dans une borne fontaine, comme le cas Béni ou dans d'autres endroits, elles pourraient avoir d'autres activités, notamment le maraîchage, en améliorant les conditions de vie de la famille, en vendant le surplus sur le marché, donc des sources de revenus supplémentaires. Donc on voit bien que... Il y a un effet d'entraînement extrêmement vertueux qui est extrêmement important. Et on sait qu'un investissement d'un euro dans l'eau, dans l'assainissement, a un impact économique positif.
Alors on va tout de suite, hein, je le disais, partir pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Retrouvez le professeur Nicolas Barreau. Bonjour professeur.
Bonjour.
Professeur titulaire de microbiologie, vous êtes aussi spécialiste de l'hygiène alimentaire, responsable du laboratoire d'épidémiologie et de surveillance des virus et bactéries transmissibles par l'eau et les aliments à l'université de Ouagadougou. Sur quelle pathologie est-ce que vous travaillez en particulier, professeur Barreau?
Merci bien. Tout d'abord, il faut dire que le Burkina Faso est un pays enclavé, mais vascularisé par trois grands fleuves, des rivières, des marigots et des lacs. Et du coup, la problématique de l'eau se pose aussi comme dans d'autres pays africains. Et c'est en cela que notre laboratoire s'est orienté sur un aspect de recherche touchant les eaux. Et au niveau des eaux, le laboratoire travaille beaucoup sur tout ce qui est infection due, et donc des agents viraux et des agents bactériens.
Alors, quelles, justement, différentes maladies des agents bactériens, donc des infections intestinales, également pour le Burkina, des infections parasitaires. Nicolas Barraud, quelle est la réaction face à ces différentes maladies? Par exemple, est-ce qu'on s'intéresse à l'origine d'une contamination quand il y a, par exemple, une épidémie au niveau d'un village? Est-ce qu'il y a comme des recherches locales qui sont effectuées?
Et voilà, justement, vous êtes en plein dans l'objectif de ce laboratoire qui, à travers ses recherches sur l'origine, aide le ministère de la Santé à entrevoir un certain nombre d'actions. Il faut dire que ici, nous travaillons d'abord sur un aspect préventif en essayant de voir les sources d'eau peuvent être contaminées de quelle et de quelle manière. Donc, je crois que c'est un problème très important. Lorsque nous savons l'origine des contaminations, nous pouvons en quelque sorte prévoir des infections qui peuvent être liées suite à la consommation de ces eaux sans certains traitements. Donc nous travaillons beaucoup sur ces aspects. Et en termes de bactéries, nous travaillons beaucoup sur les bactéries qui sont des bactéries entéropathogènes et également des virus entériques qui peuvent entraîner bien sûr des infections diarrhéiques.
Ça veut dire que vous êtes confronté, pour parler très simplement, à des eaux, par exemple, contaminées dans les puits, dans les villages?
Ah, tout à fait, parce que nous avons mené une étude des différentes sources d'eau, que ce soit les eaux de forage, qui sont d'ailleurs consommées par 44% de la population, les puits ordinaires, les fontaines publiques, les robinets, les barrages et rivières, et nous avons vu des niveaux de contamination dus à certaines bactéries, de type salmonelle, de type Escherichia coli, de l'ordre de 2 à 15%.
Alain Boinet voulait réagir à ce que vous venez de dire.
Oui, je voulais simplement dire que on a eu un différend qui est maintenant réglé avec l'UNICEF et l'OMS sur la question de ce qu'on appelle les sources d'eau améliorées, puisque c'était, la référence disant qu'une source d'eau améliorée délivre de l'eau potable. Or, on sait, à partir d'études qui ont été faites, qu'une grande partie des sources d'eau améliorées, les puits dont parle le professeur à Ouagadougou, ou des sources d'eau aménagées dans des villages, délivrent une eau qui n'est pas salubre parce qu'elle a été contaminée par des animaux, par des êtres humains, etc. Donc, je dirais que les critères de l'eau potable ou de l'eau insalubre sont extrêmement importants, les statistiques sont extrêmement importantes pour savoir de quoi on parle. Heureusement, l'UNICEF et l'OMS ont revu leurs chiffres en 2013-2014 jusqu'à la fin des objectifs du millénaire pour le développement qui, on doit le rappeler quand même, ont été une source de développement et de progrès considérable.
Professeur Nicolas Barraud, si vous aviez un mot à ajouter, un message justement à faire passer à la population sur cet accès à l'eau et également sur les mesures d'hygiène.
Ok, ben merci bien. Par rapport aux sources d'eau améliorées, il faut dire que 77 à 95% de la population du Burkina Faso a bien sûr accès à ces sources d'eau améliorées, qui sont les robinets, les bonnes fontaines, les forages et les eaux en bouteille. En termes de message, ce que je peux lancer à la population, je pense que la question de l'hygiène est une question fondamentale. Il faut que la population, quand même, ait une notion de l'hygiène en adoptant des comportements, de s'éloigner un peu de ces eaux dont la consommation peut poser des problèmes. L'eau est un liquide précieux, indispensable à la vie. Elle est le seul corps, de l'environnement qui est le plus souillé par tous les éléments de l'environnement, bien sûr, rendant son utilisation souvent dangereuse pour la vie des populations. Mais en un mot, je peux dire que l'environnement est notre milieu de vie. Nous devons l'entretenir pour une vie meilleure, et surtout en ce qui concerne l'eau.
Merci beaucoup, professeur Nicolas Barraud. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de microbiologie. Alain Boinet, ce message, l'eau essentielle. Et autre chose qui est très important, c'est l'élimination des pollutions. En premier lieu, on a parlé des contaminations par les animaux, des pollutions humaines aussi, tout simplement. 40% de la population vit aujourd'hui sans sanitaire, sans latrine. Ça représente des millions de personnes. Est-ce que les pouvoirs publics ont véritablement une question sur cette problématique, on peut dire, qui n'est pas très glamour, mais qui est totalement essentielle?
Alors, l'avantage des objectifs de développement durable qu'on évoquait tout à l'heure, qui ont été signés par 195 États, c'est chacun de ces États s'est engagé à atteindre ses objectifs, ses 17 objectifs, dont l'objectif 8, qui est dédié à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, d'ici 2030. On est en 2018, il reste 12 ans. Donc, à la fois, ces États en sont responsables, c'est des politiques publiques nationales, mais c'est vrai que certains pays n'ont pas non plus toutes les ressources, en termes de ressources financières ou d'expertise, et c'est là que les pays développés doivent vraiment venir en soutien urgent à ces pays, et pour faire en sorte que l'assainissement soit en 2030 accessible à tous, ainsi que l'eau potable. C'est vraiment un combat essentiel, à la fois parce que il y a ces maladies hydriques qui tuent chaque année des millions d'êtres humains, et notamment des enfants de moins de 5 ans, mais aussi parce que l'eau est un formidable vecteur de développement. Et donc c'est un moyen, c'est un levier absolument essentiel, à la fois pour la santé, mais aussi pour le développement. Et donc, c'est une urgence humanitaire.
Professeur Pierre Roux, on parlait tout à l'heure de ce développement très rapide, quasi anarchique, de certaines villes qui entraînent un certain nombre de pathologies liées à l'eau. Est-ce qu'il y a une différence entre les maladies, on va dire, de l'eau des campagnes et les maladies de l'eau des villes, ou est-ce que c'est finalement la même chose?
Non, il y a des différences. Effectivement, il y a des points communs. Les maladies diarrhéiques, le choléra passe très bien dans les zones périurbaines et passe même par les réseaux d'eau. C'est-à-dire que le choléra, on peut avoir des difficultés avec dans des zones rurales où il n'y a pas du tout d'accès à l'eau. Et on peut avoir des problèmes de choléra dans des zones urbaine. Peut-être ce qui m'a marqué le plus, il y a quelques semaines, je lisais un article scientifique sur, en fait, qui était destiné à évaluer un système de détection du choléra dans l'eau. Et il l'avait mis en place à Dhaka, donc au Bangladesh, une énorme ville. Et on s'apercevait là qu'un prélèvement sur 25 était positif. Alors, c'était pas le thème de l'article. Mais c'était une information capitale, c'est-à-dire que il suffit de prendre de l'eau 25 fois sur dans le système, dans le réseau de la ville, pour être en contact avec le choléra. On n'attrape pas forcément la maladie si le nombre de germes est faible, mais c'est dire que la sécurisation des réseaux d'eau n'est pas assurée. Et je voulais quand même en venir à un point important. C'est ça, à ça que devrait servir la politique, c'est dans tous ces pays, c'est de procurer aux populations ce dont elles ont besoin. Et je pense que ça n'est pas suffisamment mis devant par l'agenda politique des gouvernements concernés.
Priorité essentielle. Merci à vous deux, on l'a bien compris. Merci d'être venu dans les studios de RFI à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement pour parler de l'impact sanitaire lié aux eaux polluées et contaminées. Merci Alain Boinet, fondateur de Solidarité Internationale. On aurait encore beaucoup de choses à dire. Hein. Et merci à vous, professeur Renaud Pierroux, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, spécialisé dans les maladies parasitaires et tropicales.
Priorité santé sur RFI.
Et toujours à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement, on va s'arrêter maintenant sur cette marche qui a été organisée il y a quelques jours. Hein, c'était samedi à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Deuxième marche contre les OGM à laquelle vous avez participé. Blandine Sankara, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice du collectif citoyen pour l'agroécologie. Alors, vous avez rassemblé plus d'un millier de personnes hein, dans cette capitale burkinabé pour dénoncer l'introduction des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et le Burkina, c'est une vieille histoire, hein, on va dire, et c'est un combat qui n'est pas terminé.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Notre organisation, le collectif citoyen pour l'agroécologie, est une organisation de la société civile créée pour promouvoir l'agriculture agroécologique et la souveraineté alimentaire. Il faut rappeler que cette marche de cette année s'inscrit dans une marche mondiale contre les OGM. Mais pour le cas du Burkina, cette année, il y a trois aspects. Il faut rappeler qu'en 2015, on avait déjà marché contre le coton génétiquement modifié. Et après l'échec de ce coton, pendant qu'on n'a même pas fait des études d'impact, voilà que l'on veut nous ramener ce coton génétiquement modifié. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, après cette question, nos chercheurs tombent dans le domaine de l'alimentation à travers les probables introductions en champ ouvert du niébé BT.
S'il s'agit d'un, je vous coupe parce que pour le grand public, c'est pas forcément facile à comprendre. Il s'agit d'un haricot génétiquement modifié.
Le haricot. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément ici le haricot, qui est une légumineuse beaucoup consommée au Burkina et dans la sous-région. Et actuellement, il est au stade de recherche en milieu confiné. Et la dernière chose, dernière situation, c'est qu'en plus de tout cela, on veut lâcher des moustiques génétiquement modifiés sous le prétexte de lutter contre le paludisme.
Alors, qu'est-ce qui vous inquiète justement? On va s'arrêter. On est dans priorité santé, bien sûr. L'alimentation, c'est essentiel. Mais pour ces moustiques génétiquement modifiés de l'extérieur, avec un œil naïf, on pourrait se dire, ça peut être une manière de lutter contre le paludisme. Ça va être positif. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, nos chercheurs pensent que cela va réduire la population, en réduisant la population de moustiques. Et parce que le mâle ne pique pas, c'est la femelle, cette formule-là réduirait en même temps la transmission du paludisme. Mais pour nous, effectivement, il y a une série de questions qui sont légitimes que nous nous posons et dont on n'a pas de réponse. Quand vous prenez au niveau, par exemple, de l'impact sanitaire, il faut signaler qu'il y a au moins 3 espèces de moustiques qui donnent le paludisme au Burkina. Et s'attaquer à une seule espèce ne réduirait pas le problème. Est-ce que l'objectif visé à travers ce projet-là, c'est vraiment la lutte contre le paludisme? Première question qu'on se pose. Deuxièmement, toujours au niveau sanitaire, c'est la probabilité de résistance même de la molécule qui soigne le palud actuellement. Dans leur expérience, il y a une probabilité d'avoir des femelles. Ce n'est pas essentiellement des mâles qui seront lâchés. Donc il existe un risque de diffusion de femelles qui pourrait piquer une personne infectée et le transmettre à une autre personne saine. Est-ce que le palud, dans ce cas-là, ne sera pas une forme plus sévère qu'on le connaît actuellement? Ils sont obligés, dans ce cas, de faire des produits encore plus puissants qu'on a vu comme dans le temps Yotox, Caltox, Siltox, etc.
Ce qui vous préoccupe particulièrement, c'est qu'on ne réponde pas à ces questions. Et est-ce que vous avez justement l'occasion d'être reçu par les autorités pour essayer d'amorcer un dialogue, éventuellement pour qu'on vous rassure sur ces grandes questions, Blandine Sankara?
Il n'y a pas encore eu de rencontre avec l'autorité. Et il y a eu rencontre avec ce projet-là, les responsables de ce projet-là, et qui sont venus rencontrer quelques organisations pour expliquer le projet. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rencontre avec les autorités. Mais lors de notre marche samedi 2 juin, nous avons eu à remettre un document justement au ministère de l'Agriculture par rapport à ces questions, document dans lequel on retrouve nos interrogations, nos questions.
Et vous, ce que vous attendez,
sinon, pour l'instant, il n'y a pas eu.
Et vous, oui. Ce que vous attendez de la part des autorités, c'est justement qu'on vous fixe un rendez-vous pour pouvoir avoir toute une série d'éclaircissements sur ces interrogations très importantes pour vous.
Absolument, absolument, absolument. Non seulement de la part des autorités, mais aussi de la part des chercheurs.
De la communauté scientifique. Merci beaucoup Blandine Sankara. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du collectif citoyen pour l'agroécologie. On suivra bien sûr ce dossier dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Setoussa Maké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, nous parlerons de l'impact des écrans sur le développement, sur la santé des jeunes enfants. Si vous voulez témoigner, posez vos questions. Notre numéro 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.